A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imaginé par Binge Audio.
On m'a souvent dit que j'étais bête quand j'étais jeune, par rapport à mon handicap, ça m'a beaucoup blessé.
On est un des pays où les personnes qui s'inscrivent dans le profil dit de l'autisme vont être le plus exclues, et donc elles vont souffrir de beaucoup de préjugés.
Quand on m'a diagnostiqué le syndrome d'Asperger, j'étais soulagée de savoir qu'est-ce que j'avais pour certaines choses que j'arrivais pas à faire. Et j'étais en colère parce que ça me faisait une difficulté en plus.
Je fais en sorte de faire accepter, d'instiller ma manière de voir les choses, la manière de penser au creux des esprits de chacun. Et ça serait vraiment une avancée, un pas de plus pour l'humanité, comme en 69 où ils ont mis les pieds sur la Lune.
J'ai eu une enfance qui était très chouette. J'étais une enfant heureuse et j'avais plein de passions et de sources de joie. Enfin, j'adorais lire, j'adorais la danse, j'adorais le théâtre. Après, c'est vrai que c'était très compliqué au niveau social de me faire des amis, de comprendre ce qui se passait dans les salles de classe et de pas me faire détester de tout le monde. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle école, je me disais « Allez, cette fois, je vais y arriver, je vais me faire des amis. » Et puis en fait, ça repartait à chaque fois. On me disait que j'étais l'intello de service, que j'étais arrogante, que j'étais pédante, que j'étais hautaine. Mais moi, je me vivais pas du tout comme ça. C'est juste que j'avais un ton, j'avais des expressions, j'avais un vocabulaire qui faisait que j'étais pas comme les autres, j'étais bizarre. J'ai été diagnostiquée HPI à 6 ans, donc surdouée. Et moi, c'est vrai que c'est un diagnostic avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup de mal, dans le sens où être HPI, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut dire qu'on a eu un score élevé à un test de QI. À l'adolescence, c'est allé de moins en moins bien, parce que je me faisais vraiment déborder par tout ce que je ressentais, par mes besoins, par mes émotions, qui n'étaient pas perçues comme légitimes autour de moi. À la maison, ça allait pas du tout avec mes parents, c'était très conflictuel, et typiquement, je réagissais extrêmement mal à la moindre tension, au bruit qu'il pouvait y avoir chez moi, aux contraintes. À l'école, j'avais du mal à comprendre l'autorité, l'injustice, les règles et tout, c'était très compliqué. J'ai commencé à développer des troubles dépressifs et de l'anxiété, puis des troubles du comportement alimentaire. J'ai fait une anorexie assez sévère où j'ai perdu beaucoup de poids en très peu de temps. Mais tout ça a été un peu englobé sous le terme anxiété. J'étais anxieuse, j'étais une adolescente anxieuse, parce que les jeunes filles avec des bonnes notes qui sont stressées, elles sont anxieuses et c'est tout. Et un jour, je racontais tout ça à ma copine de l'époque, qui est aujourd'hui une amie très chère. Et en fait, il se trouve que c'est quelqu'un dont les trois meilleurs amis avaient tous été diagnostiqués avec un trouble du spectre autistique, donc l'autisme. Et elle m'a regardée et elle m'a dit « Il y a quand même beaucoup de choses dans ce que tu me dis qui m'évoquent l'autisme. » Et moi, j'ai eu un peu un mouvement de recul parce que pour moi, j'étais pas du tout dans légitime à m'identifier à ce diagnostic-là. Pour moi, l'autisme, c'était des gens qui allaient beaucoup moins bien que moi, c'était des gens qui avaient beaucoup plus de difficultés que moi, et moi, je pouvais pas être autiste parce que j'avais des amis et que je faisais des blagues, quoi, encore une fois. La manifestation principale de l'autisme, ça reste les interactions sociales. Ça reste le truc sur lequel, concrètement, on n'est pas comme les autres. Mais après, il y a aussi énormément d'autres manifestations qui peuvent se recouper avec d'autres troubles. Typiquement, moi, j'ai aussi un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Tout ça pour dire qu'au quotidien, j'ai énormément de rituels. Et, c'est-à-dire que je fais les choses dans le même ordre le matin. Alors, dit comme ça, on se dit oui, comme tout le monde. Mais en fait, c'est un peu la différence entre un mal de tête et une migraine. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur la même intensité, ni sur la même importance. C'est-à-dire que Coralie, si demain, elle ne prend pas son petit jus de fruits le matin, bon, bah, ça va, elle sera déçue, mais elle passera à autre chose. Moi, si je n'ai pas mon jus de fruits du matin, toute ma journée est remise en question. Alors, maintenant, j'ai des stratégies pour compenser et tout, mais ça me demande un vrai effort. Et c'est des choses qui me rassurent. Typiquement, le matin, bah, j'ai mon rituel. Je fais un tour des applications dans un ordre précis, qui est toujours le même. Après, je vais me faire un thé. Et là, il y a un peu limite une chorégraphie des gestes que je fais, les tiroirs que j'ouvre, dans quel ordre, la place que je sors, etc. La musique que je mets, l'endroit où je m'assois. Après, je mange une pomme, parce que la pomme, c'est un de mes aliments de réconfort. Puis après, mes tartines, toujours le même pain et tout. Enfin, dit comme ça, ça fait un peu monacal, mais en fait, pour moi, c'est une source de joie et d'apaisement. Et en fait, j'ai un peu appris la vie par cœur. Je sais comment il faut fonctionner dans telle ou telle situation. J'ai lu des livres, j'ai lu tous les forums de tout Internet. Et donc, je sais comment il faut faire. Mais typiquement, une fois, j'étais allée en RER à Aubervilliers. Et en fait, quand tu prends le RER à Paris, il faut valider en sortant. Et là, en fait, les portiques étaient déjà ouverts. Donc, il n'y avait pas besoin de valider son pass. Moi, je me suis bloquée devant les portiques parce que c'était pas juste. Il n'y avait pas... Il fallait valider le pass, c'était ça la règle. Et là, bah du coup, là, je pouvais pas parce que le portique était cassé. Du coup, qu'est-ce que je faisais ? Et en fait, je suis restée bloquée là pendant vraiment longtemps jusqu'à ce que quelqu'un me dise, bah avancez. Et j'étais là, mais j'ai pas validé le pass. Ou alors, je sais pas, enfin, j'ai plein de trucs qu'on appelle des steams dans la communauté. Les steams, c'est pas des tocs parce que c'est des trucs qu'on choisit consciemment de faire, mais qui nous rassurent. Donc, typiquement, dans les steams, il peut y avoir le fait de se balancer d'avant en arrière. C'est un truc que je fais beaucoup, mais quand je suis bien. Et c'est une façon de montrer que je suis bien. Ou alors juste d'avoir un peu des tremblements de la jambe. Ou moi, je me triture beaucoup les mains, les doigts. Ou alors je vais me toucher le visage dans des zones, enfin, dans un endroit très particulier, etc. Ou alors je vais fredonner, ou je vais répéter les mots des gens. Enfin, et c'est des choses qui peuvent être, encore une fois, très sanctionnées socialement, parce que ça peut avoir l'air de tic, mais ça n'en est pas. Parce que c'est, encore une fois, des gestes rassurants et ancrants. Avec ça, j'ai eu beaucoup de soucis pendant ma scolarité, notamment parce que, bah, du coup, je stimais en cours, et les profs prenaient ça pour des perturbations ou de la distraction, alors qu'en fait, non, ça m'aidait à écouter. Et donc, voilà, ça, c'est des choses que j'ai fini par comprendre. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi tu veux diagnostiquer ? Pourquoi tu veux te lancer dans cette démarche-là ? À quoi ça te sert ? Elle est très bien ta vie ?» Bah oui, mais en fait, je sais pas qui je suis, je comprends pas pourquoi je suis différente de vous, et j'ai besoin de ces questionnements-là pour mieux me comprendre, mieux vous dire de quoi j'ai besoin et comment je fonctionne, et surtout, bah, aller mieux. Et ça a été le début d'un long parcours de mieux-être et d'acceptation qui a été juste extrêmement positif. Être diagnostiqué d'autisme, c'est vraiment pas facile. C'est très long, c'est très cher. Et ça l'est encore plus quand on est une femme, ça l'est encore plus quand on est une jeune femme, ça l'est encore plus quand on est, on va dire... Alors je déteste le mot, mais quand on est fonctionnel. En fait, c'est pas parce qu'on a tout cet apparat de bien-être que ça va. Et moi, si j'avais dû recevoir 1 euro à chaque psychiatre qui me dit « Non, mais vous n'êtes pas autiste, vous êtes juste anxieuse », je serais millionnaire actuellement. Et en fait, c'est vraiment terrible parce que t'en arrives à des consultations où tu dois te justifier de pourquoi tu es légitime à ne serait-ce que considérer un seul instant que tu es autiste. Alors ça tend à changer, hein, bien sûr, avec les années, etc. Mais pour beaucoup de psychiatres, autisme, c'est autisme non verbal avec incapacité à faire la cuisine. Enfin, je sais pas ce qui sont des formes d'autisme qui existent, et voilà, et c'est hyper important d'en parler, mais il n'y a pas que ça. J'ai aussi eu un psychiatre qui m'a dit « Alors oui, vous êtes sur le spectre autistique, mais je refuse de vous diagnostiquer un trouble du spectre autistique parce que, à mon sens, vous n'avez pas de trouble. » Il considérait qu'en fait, j'étais autiste, mais qu'il me considérait pas comme tel parce que j'allais trop bien pour ça. Ça, c'était très violent. Parce que j'étais là, mais tu sais quoi de ma vie, en fait ? On a passé 4 heures en consultation en cumulé, toi et moi, mais est-ce que t'étais là quand j'étais dans des situations horribles où des gens me manipulaient et profitaient de moi ? Parce qu'en tant que personne autiste, je suis extrêmement naïve. Et je pense que pour obtenir un diagnostic d'autisme, il faut énormément de courage. Et moi, franchement, j'ai failli abandonner plein de fois, hein, parce que du coup, je me disais, mais en fait, je suis vraiment juste une petite fille capricieuse qui cherche un faux diagnostic pour justifier ses faux besoins, et c'était hyper dur pour mon estime de moi. Et dans ces moments-là, j'ai eu la chance d'être extrêmement bien entourée par des personnes qui me disaient « Mais non, tu as raison de te poser ces questions-là, regarde la liste des symptômes, tu les as tous !» Mais j'ai fini par tomber sur des praticiens qui étaient à l'écoute et bienveillants et renseignés, et avec qui on a pu vraiment explorer tout ça ensemble. Ça a vraiment été une libération. Ce qui est perturbant aussi, c'est que pendant le processus de diagnostic qui s'est étalé pour moi sur un peu moins de 2 ans, tu vas avoir beaucoup de symptômes et de signes qui vont se renforcer, voire apparaître, parce que tu es dans un processus de prise de conscience de ton fonctionnement, et du coup ton masquage va être un peu moins efficace, et tu vas un peu te laisser surprendre par tes propres symptômes, et ça peut être très déstabilisant parce que tu as l'impression d'inventer les symptômes, alors que non, vraiment pas, enfin, c'est pas un truc qui se simule, c'est pas seulement d'avoir un autisme tout seul dans ta chambre, quoi. Mais c'est un truc à connaître parce que c'est très fréquent. Enfin, typiquement, un truc que j'adore faire, c'est répéter les mots que les gens disent. Ça s'appelle l'écolalie. Et en fait, c'est un truc qui m'aide énormément à m'ancrer dans la conversation, à comprendre ce qu'on me dit, à comprendre quand c'est à mon tour de parler, à comprendre ce que je suis censée dire, et puis juste à être là en présence avec la personne. Mais c'est sûr que ça peut déstabiliser les gens quand tu répètes la fin de leur phrase. Voilà, ça, c'est un truc que du coup, je peux m'autoriser à faire avec mes amis maintenant. Dans la vie professionnelle, ça peut poser des difficultés et il y a clairement des ajustements à faire. Là, le premier problème auquel je peux penser, ou la première difficulté en tout cas, c'est que j'ai pas trop de filtres. Et en fait, dans la vie, je dois constamment, un peu comme dans un jeu vidéo, choisir le mode dans lequel je me mets. Est-ce que je suis en mode blague ? Est-ce que je suis en mode détendu ? Est-ce que je suis en mode sérieux ? Est-ce que je suis en mode exposé ? Est-ce que je suis en mode boulangerie ?
Deux croissants, ce sera tout.
Et du coup, au travail, c'est compliqué parce que je suis avec des gens que je connais bien. Intuitivement, j'ai envie de me mettre en mode gens que je connais bien. Sauf que non, c'est professionnel. Mais du coup, ça arrive souvent que je fasse des blagues et que je me rends compte juste après que, enfin non, il fallait pas faire de blagues à ce moment-là. Mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Moi, j'ai la chance aussi de faire un travail où je suis beaucoup toute seule avec mes dossiers, enfin, je suis éditrice, du coup bah, je suis là avec mes textes et mes virgules, moi je suis contente. Puis j'ai tous mes petits rituels et c'est un cadre qui est très safe pour moi, donc là-dessus j'ai vraiment beaucoup de chance. Même si clairement je me fatigue très très vite et j'en fais beaucoup plus pour le même résultat. Mais du coup voilà, moi en fait mes collègues ils savent pas que je suis autiste, enfin, c'est pas du tout que je me retiens de le leur dire, c'est juste qu'on n'a pas parlé. Mais si un jour ça se présente, je pense que je le mentionnerai, mais disons que pour ça, le diagnostic est vraiment salvateur parce que, en fait, c'est beaucoup plus facile d'expliquer je ne peux pas faire ci ou je ne peux pas faire ça en disant je suis autiste que sans. Faire mes courses, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens et de lumière et de bruit et de choses pas prévues. Parfois, on va au rayon biscuits et il n'y a pas les biscuits dont on a besoin, qu'on avait choisi une demi-heure à l'avance. Voire 10 jours à l'avance. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est compliqué. Du coup, quand je vais faire des courses, déjà, c'est le plus souvent toute seule, avec de la musique, pour être dans mon cadre à moi. C'est le même endroit, souvent. Enfin, c'est des endroits qui sont connus à l'avance. Je sais où sont les choses, je sais dans quel ordre aller. Et je trace, quoi. Je perds pas mon temps. Je vais aux caisses automatiques. parce que c'est un bonheur, parce que je n'ai pas à gérer l'interaction sociale avec les caissiers ou les caissières. Non pas qu'ils soient pas sympas, c'est juste qu'en fait, pour moi, c'est un gros stress de devoir enclencher le mode caissier ou caissière et de trouver les bonnes lignes de dialogue à sortir. Alors comment la caisse automatique, je peux rester dans ma bulle, c'est très bien, et ça me coûte beaucoup moins d'énergie. Mais du coup, voilà, quand je vais faire mes courses, ça peut très bien se passer quand tout se déroule dans une procédure connue, normalisée, efficace. Mais dès qu'il y a une perturbation, quelqu'un qui crie, une odeur, un bruit, un produit qui n'est pas là, ou une énorme queue, bah, ça peut être très compliqué. Aujourd'hui, je ne fais plus d'attaques de panique parce que j'ai fait beaucoup de psychothérapie. C'est super, les thérapies, vive les thérapies. Mais ça ne m'empêche pas pour autant d'avoir... ce qu'on appelle d'être overstim, ça veut dire surstimulé sensoriellement par l'environnement, voire de faire des shutdowns, donc genre des fermetures, c'est-à-dire un moment où je vais être tellement submergée par ce qui se passe. Alors je dis ça, on dirait que c'est une apocalypse autour de moi, mais pas du tout, hein, ça peut être vraiment parfois juste un bip trop fort, hein, ou alors juste trop de gens qui parlent et trop de lumière. Et là, en fait, je vais vraiment complètement me refermer et je vais plus être capable de communiquer, je vais plus être capable d'interagir avec les gens, je vais plus pouvoir regarder personne dans les yeux et j'ai juste besoin de m'allonger dans le noir pendant 2 heures, quoi. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment un handicap. C'est-à-dire que bah, parfois, t'es en voyage avec une amie, et puis vous allez au Starbucks, et puis en fait, au Starbucks, sensoriellement, il y a trop de trucs, et là, en fait, tu te déconnectes, et puis pendant 1 heure, tu peux plus rien faire. Tu peux suivre ton ami dans la rue en marchant, mais c'est à peu près tout ce que tu peux gérer. Et alors, ça n'arrive pas souvent, parce que j'apprends aussi... je m'arrange, quoi. Je vais pas faire mes courses un samedi, j'ai capté où et quand il valait mieux aller, mais ça peut arriver et c'est toujours extrêmement éprouvant et c'est compliqué de récupérer et de s'en remettre après. Alors j'ai plusieurs intérêts spécifiques. Il y en a qui sont, on va dire, socialement communs et qui du coup ont pu potentiellement passer pour juste de simples passions, mais quand j'étais petite, j'étais obsédée par les châteaux de la Loire. Je connaissais toute l'histoire de tous les châteaux de la Loire, mais genre l'architecture, les dates de construction, les rois de France, dans l'ordre, qu'ils y avaient fait, et je tannais ma famille pour aller les visiter, et j'écoutais le The Guide en entier de A à Z. J'ai eu une phase Pokémon aussi, mais c'est-à-dire que quand j'ai dit que j'ai un intérêt spécifique sur Pokémon, c'est pas que juste j'étais fan, c'est que j'avais appris tous les Pokémon du Pokédex dans l'ordre, que je connaissais toutes les équivalences de type, toutes les correspondances, et avec les années, en fait, il y a une différence entre les intérêts spécifiques qui sont plus durables dans le temps et qui restent toujours un peu, genre même encore aujourd'hui Pokémon ça me fait un truc, et puis les hyperfixations qui sont des intérêts plus temporaires et qui passent plus vite, genre à un moment j'ai fait 2 mois sur le patinage artistique et puis c'est passé, alors que typiquement j'ai un énorme intérêt spécifique sur le métro. Mais quand je dis que j'adore ça, c'est que j'ai lu tout ce qu'on peut lire sur internet au sujet du métro, je me suis fait tatouer le plan du métro sur le bras, ça me fascine, ça me passionne du point de vue historique, technique, c'est vraiment un truc qui m'obsède. Pareil pour la ponctuation et la typographie, ça tombe bien parce que je suis éditrice, d'ailleurs c'était pas totalement par hasard. Le propre intérêt spécifique, c'est que vraiment il n'y a aucune récompense sociale. Et je dis ça parce qu'en plus j'aime beaucoup la littérature classique, donc pour ça on m'a beaucoup félicité, mais typiquement jamais personne m'a félicité de m'intéresser au patinage artistique ou au métro. Finalement, grâce à plein de trucs, hein, grâce à ma vie qui allait de mieux en mieux, grâce à ma santé mentale qui allait de mieux en mieux, grâce à mes amis, grâce à plein de bienveillance autour de moi, j'ai fini par être vraiment dans un cadre de vie où je me sentais en sécurité et où je me sentais affirmée. Je serai jamais normale. Je suis aussi, je suis lesbienne, je serai jamais normale. Je ferai jamais comme il faut, 100%. Donc, quelque part, autant faire ce que je veux, puisque de toute façon, je ne serai jamais normale. Et donc, bah, on a tout l'espace d'inventer une vie qui nous ressemble un peu plus. Et bah, moi, je sais que j'ai jamais été aussi épanouie qu'aujourd'hui, où je suis entourée de gens qui me ressemblent, des personnes LGBT, des personnes non valides, des personnes malades, des personnes racisées, des personnes sexisées, enfin... Tous ces mots-là qui peuvent paraître un peu barbares, mais qui en fait correspondent à tellement de réalités sensibles et importantes et partagées, enfin, ça nous soude et ça crée des liens entre nous qui sont hyper solides et qui sont hyper thérapeutiques.
Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Maïel Diallo. Réalisation Paul Berthiaud. Production Naomi Titi. Coordination éditoriale David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse apreslapluie@binge.audio ou sur le compte @apreslapluiepodcast sur Instagram.
Découvrez vite la première ovo-sitcom de Paradiso Media, Marie et les œufs en neige.
Marie, c'est moi, et j'ai 36 ans. L'année dernière, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que j'étais célibataire, que j'avais pas d'enfants, et que bientôt il serait trop tard pour en avoir des enfants. Alors je me suis posé plein de questions. Est-ce que je congèle mes ovocytes? Comment j'en suis arrivée là? Est-ce que j'en veux, des enfants? Et surtout, pourquoi on fait des enfants, en fait? Cette question-là, je l'ai posée à beaucoup de monde. Et vous allez voir, c'est pas simple.
Marie et les œufs en neige, c'est une série en 6 épisodes à écouter dès maintenant dans le podcast Journal Intime.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.